Bonjour Monseigneur.
Bonjour Laurence.
Alors aujourd'hui nous allons parler d'un thème qui est un thème très important cette année, année 2025, année du jubilé. C'est le thème de l'espérance, pèlerin d'espérance, le thème donc de l'année 2025.
Voilà, alors moi j'aimerais aussi souhaiter une bonne année à tous les auditeurs qui ne m'ont pas encore entendu. Voilà, donc que le Seigneur vraiment vous bénisse, vous tous qui écoutez cette radio, tout au long de cette année 2025. Une année portée justement par l'espérance qui ne déçoit pas, puisque c'est le thème de cette année jubilaire.
Alors effectivement, le pape François donc, a choisi ce thème. Je ne sais pas trop d'ailleurs comment un pape choisit un thème. C'est l'Esprit Saint.
Oh, je pense que ça a dû lui être suggéré. C'est un dicastère pour la nouvelle évangélisation qui s'occupe à Rome d'organiser l'année jubilaire. Et je suppose qu'ils ont dû réfléchir et proposer au pape. Et puis lui, il a donné son accord. Puis il a dû dire aussi ce qu'il voulait pour ce jubilé.
En tout cas, le pape François a été très inspiré. Il a beaucoup écrit sur l'espérance. Notamment, il a écrit un livre, « L'espérance est une lumière dans la nuit ». Il a écrit aussi une bulle d'indiction pour le jubilé en mai 2024. Je veux bien le dire en latin, spes non confundit, c'est exact?
C'est pas mal.
C'est pas mal. L'espérance ne déçoit pas, en français, c'est plus simple. Donc, qui vient de Romains 5, 5. Et le pape qui stimule vraiment le courage de la communauté chrétienne de Rome. Le Seigneur Jésus porte du salut, il est notre espérance. Alors, sur cette bulle d'indiction du jubilé qu'on peut retrouver sur Internet, le pape a des mots très forts. Il parle vraiment aussi du chemin. Pèlerin d'espérance est un chemin. La vie chrétienne est un chemin qui a besoin de moments forts. Et il dit notamment « Se mettre en marche est caractéristique de celui qui va à la recherche du sens de la vie. Le pèlerinage à pied est très propice à la redécouverte de la valeur du silence, de l'effort, de l'essentiel. » Il en a parlé également le 5 janvier lors de la fête de l'Épiphanie, les mages qui se mettent en marche. On pense aussi à Saint Jacques de Compostelle. Donc, pèlerin d'espérance, qu'est-ce que vous, ça vous évoque pour le diocèse, pour le monde, pour notre société actuelle?
Oui, il y a deux choses, en fait, dans ce thème. Il y a d'abord l'espérance, vous l'avez rappelé, dont on pourra reparler. Moi, j'aimerais juste dire la phrase en entier de Romains 5. L'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors ça, c'est très beau de voir que l'Esprit Saint mis en nos cœurs par le baptême, par la confirmation, nous porte à l'espérance et nous garde justement dans cette lumière dont parle le pape, cette lumière de l'espérance. Et puis, il y a l'idée d'être pèlerin. Alors c'est sûr que pendant une année jubilaire, on propose d'aller en pèlerinage à Rome en particulier, mais on propose aussi des pèlerinages locaux. On en dira peut-être un mot dans cette interview. Je trouve intéressant aussi qu'il propose la marche à pied, parce que des pèlerinages, on peut en faire très loin. Par exemple, on va aller à Rome et on y va en car. Mais c'est-à-dire reprendre d'abord le contact avec la terre, avec le rythme de la marche, avec le silence, avec la nature. Notre monde, en particulier notre monde occidental, en a beaucoup besoin. On n'a pas attendu évidemment le jubilé pour le faire, mais je trouve ça beau que notre vie, elle est un pèlerinage. Elle est un pèlerinage vers la maison du Père. Et à chaque fois que nous pèlerinons, à chaque fois que nous marchons, c'est précisément ça qui se passe. C'est qu'on se reconnecte, disons, avec notre existence, avec le chemin qu'est notre existence, où on marche pas à pas, il faut s'arrêter, il faut repartir. Parfois, on a des coups de fatigue. Parfois, au contraire, on est plein d'élan, plein d'allant aussi. Parfois, on est seul. Parfois, on est à plusieurs. En tout cas, je crois que l'expérience du pèlerinage, où on se met en route avec notre Bible, et puis dans le silence, puis avec d'autres, peut vraiment être une très très belle expérience.
Alors justement, cette question, qu'est-ce que l'espérance? Comment pourrions-nous définir l'espérance? Alors moi, j'ai fait des petites recherches. Alors quand on tape « espérance » sur Internet, on voit plein de choses. Et j'ai retenu cette définition dans le texte de Charles Péguy, que certainement vous connaissez, qui dit... L'espérance est une vertu surnaturelle par laquelle nous attendons de Dieu avec confiance sa grâce en ce monde et la gloire éternelle dans l'autre.
Oui, c'est-à-dire que l'espérance, elle nous est donnée par la résurrection du Seigneur, parce que mort et ressuscité, ce qui est vraiment le cœur de la foi chrétienne, il est entré dans la gloire du Père, il est assis à la droite du Père, ça c'est le thème de l'ascension. Et ce qui fait notre espérance, c'est qu'il y est entré avec son humanité, parce que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Et donc, parce qu'il est entré avec son humanité, ça veut dire que notre humanité ne fait plus obstacle, vous voyez, à notre entrée dans le ciel. Voilà pourquoi notre espérance, c'est que la vie éternelle nous est donnée. La vie éternelle nous est donnée, la vie avec Dieu, la vie en plénitude... grâce à la mort et à la résurrection du Seigneur. Ce qu'il y a dans l'espérance chrétienne, c'est que cette espérance, elle vaut pour après notre mort, mais la vie éternelle, elle est déjà commencée. Le royaume, il est déjà inauguré. Et donc, l'espérance ne nous démobilise pas de notre vie terrestre en nous faisant espérer justement la vie éternelle. Parce que c'est un reproche qui a été fait, si vous voulez, à l'Église, aux chrétiens, de dire, bah oui, vous faites rêver les gens à la vie éternelle et du coup, bah, ça les désengage vis-à-vis du monde. Ouais. C'est un peu trop facile, vous les laissez dans leur pauvreté, vous les laissez dans leur misère, en leur disant que ça ira mieux plus tard. En fait, l'espérance chrétienne, elle ne nous démobilise pas, elle nous fait espérer la vie éternelle, mais elle nous engage dès ici-bas, maintenant, pour dire, oui, c'est vrai, mais le royaume est déjà commencé et nous voulons donner à la terre le goût du ciel. Nous voulons donner à la terre le goût du ciel par nos engagements, par l'amour que nous portons aux uns et aux autres, en essayant de construire une société qui soit plus juste, plus pacifique. Et donc, l'espérance chrétienne, c'est pour l'au-delà, mais c'est aussi une espérance pour aujourd'hui de transformer le monde, lui donner la saveur de l'évangile, et avec la grâce de Dieu qui nous est donnée, d'où la définition de Peggy, vous voyez, qui est à la fois une définition de l'espérance pour le futur, mais c'est un futur qui a déjà commencé.
Et une dimension, je trouve intéressante, c'est la dimension surnaturelle, parce que cette vertu théologale de l'espérance, elle est liée avec la foi et la charité. Et nos auditeurs pourraient dire, mais comment espérer en ce monde ? Il y a tout qui est désespérant. Il y a les maladies, il y a les guerres, il y a la crise économique. On est dans une société très anxiogène. On a peur pour l'avenir, on a peur pour nos enfants. Il y a la violence qui augmente. Comment on peut espérer ? Donc, est-ce que justement, en tant que chrétien, c'est garder la foi ? Il y avait une autre définition que je trouvais intéressante, c'est l'expérience voit ce qui n'est pas encore et qui sera. Est-ce que c'est quelque part un acte prophétique quand on est chrétien, d'espérer ?
Ben, c'est-à-dire, oui, à partir du moment où on se dit, moi, en fait, ma vie future, le sens de ma vie, c'est la vie avec Dieu. C'est la vie en plénitude avec Dieu et puis avec tous mes frères. Et ça veut dire que moi, je suis fait pour ça et que je suis destiné à cela. C'est ma vocation, c'est mon avenir, c'est d'être avec le Seigneur. On l'a dit tout à l'heure, hein, c'est vraiment entrer dans la demeure du Père. C'est notre vocation surnaturelle, comme vous l'avez dit. Voilà. Et donc, ça donne sens aussi à tous mes engagements, à toute ma vie. Moi, je suis d'accord quand vous dites, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans notre monde. Et c'est là où, justement, le pape nous dit, nous qui sommes porteurs de cette espérance, nous qui savons que nous sommes aimés de Dieu de manière inconditionnelle, que tout homme l'est d'ailleurs de manière inconditionnelle, et que cet amour de Dieu c'est notre avenir, eh bien nous pouvons, vous voyez, en ayant ça précisément au cœur de notre existence, ça illumine tout, ça donne sens à tout, y compris si nous traversons des épreuves, y compris si on passe par des périodes qui sont plus difficiles, mais cet amour de Dieu, il est comme inébranlable, et du coup, il vient nous chercher au fond de notre être, et voilà, il nous permet d'avancer, hein. Le thème du pèlerinage, c'est justement que nous avançons vers cette vie en plénitude, avec l'amour de Dieu comme viatique, et du coup, nous pouvons aussi donner à la terre, eh bien, cette expérience de l'espérance qui nous est donnée. Et donc, c'est pour ça que le pape dit, il fait une petite liste dans sa bulle d'indiction, justement, la bulle, c'est la lettre introductive, en disant, au fond, donnons pendant cette année, donnons autour de nous, en communauté ou bien, si vous voulez, individuellement, donnons des signes d'espérance.
Alors justement, comment pourrions-nous lancer des signes d'espérance dans notre quotidien ? Comment ça peut se concrétiser ? Je pense aussi à la petite Thérèse de l'Enfant Jésus qui dit « Je ne me découragerai jamais ». Est-ce que c'est des décisions comme ça, de dire « De toute façon, je ne me découragerai pas dans ma vie, je ne me découragerai pas sur la vie des autres ». Est-ce que c'est la confiance, la patience, l'espérance, tout ça, c'est comment faire ?
Je pense que nous avons dans notre foi chrétienne justement des ressources pour donner des signes d'espérance. Alors, quand le pape en parle, lui, il pensait à la paix. Donc la paix, vous me direz, la paix, vous voyez, à l'international, nous, on se sent un peu démunis vis-à-vis de ça. Mais la paix, on peut la mettre dans nos familles, on peut la mettre dans nos relations, dans les organismes dans lesquels nous travaillons. Moi, je pense à d'autres signes d'espérance que nous pouvons donner. Alors, le pape fait une liste. Le deuxième dans la liste, deuxième signe d'espérance, c'est de prendre soin des enfants, c'est d'avoir des enfants. Parce que une société qui n'a plus d'enfants, c'est une société qui n'espère plus dans l'avenir. Quand on arrive à dire, moi, je veux pas d'enfants parce que je veux pas leur livrer un monde dans lequel je ne suis pas bien ou un monde qui est anxiogène, Donc je préfère que, ou bien pire, si jamais j'ai des enfants, ils vont capter les ressources, donc ça va abîmer la terre, donc n'ayons pas d'enfants. Bon, vous voyez, parfois vous avez une sorte d'ambiance comme ça qui traîne, et le pape dit, ayez des enfants. Et nous, on peut, vous voyez par exemple la famille. La famille, c'est vraiment un signe d'espérance que nous pouvons donner. Je sais bien que c'est pas un long fleuve tranquille qu'une vie familiale. Il y a des familles où c'est compliqué, où il y a des tensions. Mais le noyau familial, la vie de famille, le fait que nous habitons ensemble, qu'il y a cette solidarité entre nous, que c'est vraiment un lieu d'apprentissage de la vie sociale, que c'est un lieu où on est aimé inconditionnellement. La famille, c'est un très beau signe d'espérance. Et dire que même s'il y a eu des difficultés dans nos familles, la famille, c'est ce vers quoi on revient sans cesse. Et je pense par exemple à l'engagement dans le mariage. Ça, c'est un signe d'espérance très fort, parce que quelqu'un qui se marie, c'est quelqu'un qui dit « Oui, dans le futur, dans l'avenir, on va rester ensemble, on va construire, on va bâtir. Je te fais confiance, tu me fais confiance. Je pense qu'il y a en toi tellement de qualités et qu'on va continuer à se découvrir. » Je trouve que, vous voyez, quand il y a des mariages, quand on entend les cloches d'un mariage, par exemple, dans une ville, je trouve que ça donne de l'espérance pour l'avenir. En plus, le mariage, il protège les enfants. C'est-à-dire, quand on a des enfants et qu'on se marie, on dit aux enfants, vous voyez, on s'est marié, on veut vous avoir dans notre couple et on va rester ensemble pour votre éducation, pour vous mettre au monde, pour assurer votre avenir. Alors, des signes d'espérance. J'en donne un autre, par exemple, s'occuper des personnes âgées. À l'heure où on pense déjà à une loi de fin de vie, qui est une loi, à mon avis, qui est terrible, parce qu'on ouvre une porte qu'on ne saura jamais refermer, et cette porte, c'est le droit de tuer, le droit de mettre fin à la vie de quelqu'un. Et moi, je pense qu'en s'occupant des personnes en fin de vie, en les accompagnant, en étant là, tout proche avec elles, en leur redonnant justement cette espérance de la vie éternelle, en prenant soin d'elles, en disant jusqu'au bout combien on les trouve dignes, nous donnons une espérance à notre monde. Notre monde, je pense, ira beaucoup plus mal lorsqu'on se sera donné l'autorisation de mettre fin à la vie de nos parents, de nos grands-parents, des personnes âgées qui sont autour de nous. Et quel signe on va leur donner, vous voyez, quand on leur dira, peut-être qu'on prendra une décision à votre place de mettre fin à votre vie parce que, vous voyez, il y a ce sentiment qu'on leur donne d'inutilité, de trop grande précarité. Moi, je suis un peu effrayé devant ces projets de loi de fin de vie. En tout cas, ce que nous pouvons dire, c'est que nous voulons aimer inconditionnellement les personnes qui sont au bout de leur existence, mais nous voulons leur dire combien elles sont importantes à nos yeux. Et nous voulons leur dire merci pour l'existence qu'elles ont eue et pour ce que nous avons reçu d'elles, et cela jusqu'au bout, sans mettre un terme, justement, à leur existence. Voilà. Il y a un autre signe d'espérance que nous pouvons donner, je pense au synode. Le synode romain qui a eu lieu, qui a été vraiment une expérience qui a été donnée à l'Église pour la manière en fait, de prendre des décisions, de discerner dans l'Esprit Saint, de se parler, de s'écouter. J'ai lu dans le rapport du synode combien ça peut être aussi, pour notre monde qui a parfois du mal à être en dialogue, comment est-ce que l'Église peut donner ce signe d'espérance. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément exemplaire, mais ça veut dire, vous voyez, qu'on cherche en Église comment se parler les uns avec les autres, comment s'écouter, comment prendre des décisions, vous voyez, où on a pris vraiment le temps de discerner pour comprendre la volonté du Seigneur. Comment est-ce qu'on peut avoir un dialogue apaisé? Comment on peut écouter l'autre, même si jamais il n'est pas d'accord avec nous? Comment on peut essayer de trouver une solution sans compromis, mais en écoutant tout le monde et en essayant de voir que tout le monde avance? Moi, je pense que ça peut être vraiment des signes d'espérance pour notre monde. Donc, je crois qu'il y a des choses qui sont extrêmement concrètes. On va emmener 150 jeunes là, à Rome. Ça sera un signe d'espérance donné aussi à notre département et puis à notre Église.
Et vous venez de le dire, c'est par rapport à l'humanité du Christ. Je pense qu'on vient de fêter les fêtes de Noël. C'est un enfant qui naît. C'est Dieu qui se fait petit enfant. C'est un grand signe d'espérance. Notre Dieu, ce grand mystère de l'incarnation, vous l'avez dit. Et en même temps, cette espérance que nous, en tant que chrétiens, on a dans le cœur de cette vie éternelle et de cette résurrection du Christ, et qu'il y a aussi un passage, et qu'il y a une autre vie qui illumine notre vie terrestre, quelque part.
Ça, vous avez raison de dire que le mystère de Noël, le signe d'espérance, c'est un Dieu qui se fait petit enfant. C'est incroyablement, si vous voulez, touchant d'humanité. de dire au fond, notre Dieu, le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, il s'est fait petit enfant et il s'est remis entre nos mains comme ça. Et donc, il comprend aussi notre humanité fragile, la précarité de notre existence, des difficultés. Il nous a rejoints justement dans notre humanité pour cela. Moi, je trouve qu'on se sent chaque année dans le mystère de Noël, c'est comme cette lumière qui nous est donnée que Dieu nous comprend, en fait, que Dieu ne nous a pas sauvés d'en haut sans que ça lui coûte rien, mais il est venu par en bas et il a mis toute son existence dans la balance, si je puis dire, hein, jusqu'à la mort sur la croix, justement pour nous ramener avec lui. Vous savez, les pères de l'Église disent « ce qui n'a pas été assumé n'a pas été sauvé ». C'est-à-dire que Jésus a assumé toute l'humanité de la condition humaine pour pouvoir vraiment la sauver, y compris jusqu'à la mort, y compris jusqu'à la souffrance, y compris jusqu'au sentiment d'abandon. Et bien, tout ça, il l'a connu. Et de fait, je trouve que vous avez raison de dire que ça, c'est un formidable signe d'espérance, hein, que nous sommes non seulement aimés de Dieu, mais connus de Dieu dans notre fragilité.
Alors, par rapport au diocèse de Nîmes et par rapport à ce thème des pèlerins d'espérance, en 2025, avec cette année jubilaire, il y aura plusieurs invitations. Le dimanche 5 janvier dernier, vous avez ouvert l'année jubilaire à Nîmes à la cathédrale, de manière un peu officielle. Et il y aura trois grands moments et temps forts. Il va y avoir d'abord le pèlerinage provincial à Rome avec les différentes provinces, différents évêques, du 23 au 27 février. Le jubilé des jeunes du 27 juillet au 4 août, où le défi donc est d'emmener 150 jeunes à Rome, donc vous allez nous en parler, et puis également une marche, on en a parlé tout à l'heure, donc le fait de se mettre en route, pas seulement au sens figuré mais aussi au sens propre, à vélo, à pied, en basket, en trottinette, je ne sais pas. Ce sera la marche du 30 août. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments de cette programmation du jubilé pour le diocèse de Nîmes?
Oui, alors là, on revient au début de notre entretien avec cette marche. Le fait d'être pèlerin, à un moment, ça se traduit justement concrètement par prendre la route. Donc, alors là, à Rome en février, ça sera donc, comme vous l'avez dit, avec la province de Montpellier, il y aura 250 pèlerins, c'est un petit pèlerinage. À Rome, pour le jubilé des jeunes, fin juillet, début août, c'est 150 jeunes, mais avec une dizaine de prêtres et puis des accompagnateurs pour découvrir, disons, la ville éternelle, là où Saint-Pierre et Saint-Paul sont morts, pour être ressourcés dans la foi avec toute l'Église, près du successeur de Pierre. Voilà, donc ça c'est une expérience à faire avec les jeunes, une expérience de ressourcement dans la foi, une expérience de vie spirituelle, une expérience de vie en Église aussi, de fraternité avec tous les jeunes. Mmh. Voilà, donc ça, je pense que ça sera très, très beau et ça sera aussi très structurant pour les paroisses, parce que quand on revient d'un tel pèlerinage, il y a quelque chose qui nous a soudés et qui vivifie la vie paroissiale. C'est pour ça d'ailleurs que j'encourage vraiment les auditeurs aussi à aider financièrement les jeunes à pouvoir partir, parce que pour une personne, ça coûte 900 euros, donc on va proposer aux jeunes de payer moins, mais il faut que le diocèse puisse compléter la somme. Mais je crois que ça vaut le coup. Et puis alors, il y a cette marche du 30 août. Alors, j'oubliais que le pèlerinage à Lourdes, en juillet, ça sera prêché, c'est le pèlerinage habituel, mais il sera prêché sur ce thème de l'espérance qui ne déçoit pas. Donc on peut aussi aller à Lourdes et début
si
juillet.
Si on ne peut pas aller à Rome, on peut aller à Lourdes.
Voilà. Et puis, donc il y a cette marche vers Saint-Gilles, le 30 août, qui a été proposée par le service de la catéchèse, du catéchisme des enfants, et en fait auquel on propose à tout le diocèse de se joindre. Alors ça peut être une paroisse, ça peut être une famille, ça peut être deux familles ensemble, ça peut être des amis, ça peut être une petite équipe Notre-Dame, ou bien une équipe d'ACI, ou bien une équipe d'Action catholique, ou bien simplement un groupe de prière. Ou bien ça peut être des touristes qui sont là encore, qui viennent dans le Gard et puis qui se disent tiens, notre dernier jour de vacances, on va le passer comme ça, dans le Seigneur, pour préparer l'année. Voilà. Et donc chacun fait l'itinéraire, choisit l'itinéraire qu'il veut. On se retrouve à la Porte des Maréchaux à 17h30 le 30 août. La Porte des Maréchaux, c'est à l'entrée de Saint-Gilles. D'accord. Et là, chaque année, on fait une procession avec les reliques de Saint-Gilles. Et donc on processionne jusqu'à l'abbatiale. Et puis là, on célèbre la messe. Et puis ensuite, il y aura certainement un apéritif, comme on sait faire. Voilà. Mais par exemple, il y a un itinéraire de Pont-Saint-Esprit à Saint-Gilles, d'accord, qui est un itinéraire de Saint-Jacques, donc un chemin des pèlerins de Saint-Jacques. On mettra sur le site à disposition ces itinéraires possibles Mais au fond, chacun peut faire ce qu'il veut parce qu'on a suffisamment de sentiers de grande randonnée, par exemple. Moi, je partirais de Nîmes. Nîmes-Saint-Gilles, c'est 5 heures de marche.
Ouais.
C'est pas impossible du tout à faire dans une journée.
Pour des personnes en bonne condition physique.
Oui, et puis alors ensuite, ceux qui sont en moins bonne condition, ils peuvent simplement aller en voiture et puis nous rejoindre là pour la célébration de la messe. Donc là, tout est possible. Je crois que pour finir les vacances, l'été, pour se préparer à la rentrée, ça peut être un très très beau moment. Encore, on sera évidemment encore dans le soleil de l'été. Il y a de la clarté, il y a du soleil, il y a de la chaleur aussi. Mais c'est toujours un très très beau moment dans la fraîcheur de l'abbatiale.
Très bien. Alors, toutes les informations concrètes, aussi bien sur le pèlerinage provincial, sur le jubilé des jeunes, sur cette marche pèlerine, on va dire, du 30 août, eh bien, seront sur aussi le site du diocèse, où vous pourrez avoir toutes les informations pour nos auditeurs qui nous écoutent, qui seraient intéressés. On les invite aussi donc à parler aussi du jubilé des jeunes, à tous les jeunes qui connaissent, et puis ne pas hésiter aussi à nous aider financièrement pour que ces jeunes puissent partir au jubilé. Un grand merci, Monseigneur, pour ces rendez-vous.
J'ajoute que pour le pèlerinage à Saint-Gilles, sur le site, il y aura des indications. On donnera un livret du pèlerin. Il faut juste prévenir qu'on va partir et qu'on va arriver pour qu'on soit un peu au courant et qu'on sache qui va arriver. Et puis surtout pour qu'on puisse être aidant pour cette marche et puis donner toutes les indications utiles. Mais on sera ravis parce que vraiment tout le monde est le bienvenu. Et puis la formule, elle est souple. Ça veut dire que vraiment tout le monde peut partir et marcher et pèleriner comme il veut. Voilà, nous, on est un peu en soutien. Je pense que ce sera un très beau moment diocésain qui coûtera peu cher parce qu'on ne part pas en avion, je ne sais pas où. Mais voilà, et puis c'est une manière d'habiter notre département, notre diocèse, à travers toutes les routes de marche qui sont proposées.
Très bien. Un grand merci, Monseigneur.
Merci, Laurence, et merci à tous les auditeurs. Encore une fois, bonne année.